OK, Alexandre Bissonnette, donc, qui a été condamné pour le meurtre au premier degré de 6 personnes. Alors, je vous parle, bien entendu, de la tuerie de la mosquée. Donc, 6 personnes et 6 autres pour tentative de meurtre. Et lors, donc, lorsque la décision a été prononcée, là, il a été condamné, donc, à purger une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans. Et donc, cette peine était contestée, elle a été portée en appel devant la Cour d'appel du Québec. Et là, la Cour d'appel vient de rendre sa décision. On va aller rejoindre l'avocat criminaliste Maître Walid Ijazi. Bonjour.
Bonjour.
Résumez-nous la décision de la Cour d'appel. La défense demandait 25 ans. La couronne disait que ça aurait dû être 50 ans. Et qui a gagné?
En fait, la Cour d'appel a rendu une énorme décision aujourd'hui. Là, c'est une décision quand même assez historique qui invalide, en fait, l'article qui permettait à la poursuite de demander de multiplier les périodes d'inadmissibilité, permettant au juge de les imposer. Alors bref, cet article-là a été déclaré inopérant. Il viole la Charte canadienne des droits et libertés. Ça permet d'imposer des peines qu'on dit cruelles et inusitées au sens de la Charte. Alors c'est rayé, c'est fini, ça ne fait plus partie du code criminel. Alors la Cour d'appel, les trois juges se sont ralliés à la position d'Alexandre Bissonnette qui disait qu'on devait limiter. Il a plaidé coupable, Alexandre Bissonnette. Il a admis ses torts. Mmh. Et la peine la plus sévère avant l'adoption de cette loi en 2011, c'était prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. En première instance, la poursuite demandait 150 ans parce que l'article permet de multiplier les périodes d'inadmissibilité. Alors, il y avait 6 victimes, 6 morts, fois 25, 150 ans. Ils ont changé leur position en appel, ils ont baissé ça à 50 ans, mais bref, défendaient la légitimité de cet article, mais ils ont perdu. La Cour d'appel du Québec a dit que c'est un article inconstitutionnel et Alexandre Bissonnette se retrouve maintenant à... Il demeure condamné à une période de prison à perpétuité, mais pourra demander sa libération conditionnelle après 25 ans. Il pourrait la demander, ça ne veut pas dire qu'il va l'avoir, mais au moins il a la possibilité de le demander.
Alors que selon la décision en Cour supérieure, il ne pouvait pas la demander avant 40 ans.
Exactement, et c'était un jugement assez particulier, c'était un jugement très articulé, c'était un jugement qui faisait plus de 200 pages. C'est une question très importante, hein. C'est une question quand même assez historique et c'est une question qui est très lourde, grave de conséquences. Ça nous rapporte à l'abolition de la peine de mort en 1976. À l'époque, avant l'abolition, il y avait la possibilité de condamner à mort. Il y a eu un débat philosophique, légal, politique, ultimement, il y a un choix politique d'abolir la peine de mort. Et dans le cadre de cette discussion-là, à l'époque, dans les années 70, l'argument, c'était de dire, si on enlève la peine de mort, il faut une peine au moins sévère, dissuasive, exemplaire, alors ça va être 25 ans. Prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Et ça, c'était la peine la plus sévère pour le pire des crimes jusqu'à 2011, où là, ça devenait plus assez sévère. On voulait pouvoir augmenter 25 ans, rendre ça plus sévère. Mais le juge était lié par des blocs. Alors, on ne pouvait pas couper un 25 ans en deux. C'était 25 plus un autre 25 plus un autre 25. Mmh. Le juge de première instance, ici dans la cause d'Alexandre Bissonnette, le juge de la Cour supérieure, lui, il estimait que, effectivement, ça pouvait mener à des peines disproportionnées d'additionner les blocs de 25 ans, mais estimait que obtenir sa libération conditionnelle après 25 ans pour un crime aussi crapuleux, sordide, 6 morts dans un contexte de haine, dans un lieu de culte, ça valait plus que 25 ans. Lui, dans sa tête, il disait la peine juste dans les circonstances, ce serait 40. Alors, qu'est-ce que je fais pour imposer 40 ans? Et là, il s'est livré, et là, on tombe dans du technico-légal complexe, mais bref, il l'a pas déclaré totalement inconstitutionnel, il a redessiné, reformulé à sa façon l'article qui permettait d'augmenter le 25 ans pour ultimement imposer 40 ans. Ce que la Cour d'appel dit, c'est que le juge ici est allé trop loin, il s'est livré à une technique qui existe, qui peut être légitime dans certaines circonstances, mais qui ici ne s'appliquait pas. Et ce qu'il aurait dû faire, le juge, c'est invalider l'article tout simplement. Alors, c'est ce que la Cour d'appel fait, et maintenant Alexandre Bissonnette va pouvoir demander sa libération conditionnelle après 25 ans, mais j'imagine, je devine, on peut raisonnablement prévoir que ça va se rendre en Cour suprême. Alors peut-être que la bataille n'est pas encore complètement terminée. Il resterait l'étape de la Cour suprême après.
Dans le fond, ce que la Cour d'appel a décidé, c'est la loi qui a été votée sous Harper ou l'amendement qui a été apporté au Code criminel est inconstitutionnel. Dans le fond, vous n'avez pas le droit d'imposer des peines consécutives parce que c'est jugé inhumain. C'est une forme de peine de mort tout en restant vivant. C'est un peu ça, non?
À peu près. C'est ce que la terminologie de la charte, c'est qu'une peine peut devenir cruelle et inusitée si elle devient nettement disproportionnée. Ici, la Cour d'appel emploie un langage, une terminologie assez forte. Elle dit imposer des peines de 130, 140, 150 ans de prison au Canada serait une ordonnance qui relève de l'absurdité. C'est la Cour d'appel qui dit ça. Ça peut, et la Cour d'appel va un peu plus loin. Elle dit ça pourrait satisfaire un esprit vengeur, mais l'esprit vengeur n'a aucun rôle à jouer dans un système de peine civilisé, comme au Canada. Un châtiment doit intégrer un principe de modération, c'est-à-dire la peine doit être juste appropriée aux circonstances. Alors bref, des ordonnances de 150 ans, comme on voit aux États-Unis, ça n'a pas sa place ici. Ça devient nettement disproportionné. C'est de nature à choquer la plupart des Canadiens, surtout pour quelqu'un qui a admis sa culpabilité, était jeune, était dans un état suicidaire, était largement intoxiqué au moment de la commission des gestes. Et peut-être que dans 25 ans, cette personne-là, elle sera réellement réhabilitée. Et lui priver de la possibilité d'au moins demander une libération conditionnelle, c'est cruel et inusité. Ça ne veut pas dire qu'elle va obtenir sa libération conditionnelle. Peut-être que si la personne n'est pas réhabilitée dans 25 ans, si elle constitue toujours un danger pour le public selon la commission des libérations conditionnelles, mais ils ne sont pas obligés de le relâcher. Il restera détenu. On traversera ce pont-là éventuellement, mais on ne peut pas aujourd'hui priver la personne. C'est ce qui crée un caractère inhumain. Selon la charte, c'est cruel et inusité.
Mais on peut s'attendre à ce que les familles des victimes de l'attentat de la mosquée soient très déçus, là, soit même très en colère, parce que ils avaient plaidé, puis on les comprend, de dire 25 ans pour ce qu'il a fait, c'est passé. Il faut que ça soit plus. Et c'est cet argument-là, dans le fond, qui avait convaincu le juge de la Cour supérieure. Alors, ce sera très intéressant de voir si ce sera porté en appel. Moi, je suis assez d'accord avec vous, maître. Je pense bien que ça va se retrouver parce que ça devient quelque chose de très important pour la suite des choses, là. Ça devient une décision historique, là.
Oui, ça transcende Alexandre Bissonnette. Ça concerne les valeurs canadiennes. Et je reviens à ce que la Cour d'appel dit, là. Dans un système civilisé comme au Canada, des ordonnances de 300 ans, ça relève de l'absurde. Un système civilisé doit être proportionnel. C'est sûr qu'on tient compte de la peine des victimes. Dans toutes les causes. Et je veux dire, on parle de prison à vie ici. Mais ça devient cruel et inusité de priver quelqu'un d'une libération conditionnelle si elle est réhabilitée dans 25 ans. On verra dans 25 ans.
Maître Walid Ijazi, avocat criminaliste. C'était très clair, maître. Bravo, merci pour votre esprit vulgarisateur.
Je vous en prie, bonne journée.
Salut, à la prochaine. On s'en va à la pause. La mafia, elle est très créative, la mafia, vous savez. Hein? Pour blanchir son fric, là. Honnêtement, là, moi, je suis assez ébahi de lire le Journal de Montréal le matin. C'est incroyable. Ils servent du casino. Pas plus compliqué que ça. T'arrives avec des liasses d'argent que t'as déterrées. Dans certains cas, ils acceptent même pas les dollars parce qu'ils sont moisis. Comprends-tu? Le gars, il est allé faire un trou. Il a enterré ça. Et puis, 10, 15, 20 ans, je ne sais trop, plus tard, il va déterrer son fric, puis il rentre au casino avec son argent, toi. Il s'en vient jouer. Puis évidemment, ben, en donnant son fric, il reçoit des jetons. De cette manière-là, il blanchit, tu comprends? Parce que les jetons, t'es pas obligé de les jeter, de les jouer au complet. Tu peux retourner à la fin de la soirée puis aller les rééchanger pour du fric. Ton argent est blanchi, bingo. Ça va-tu assez bien, toi? Après la pause.